Comme dans un livre, Marie-Christine Loubry. Dracula, de Bram Stoker. Roman traduit de l'anglais par Lucienne Molitor. Chapitre 8. Journal de Mina Murray. Même jour, 11h du soir. C'est moi qui suis fatiguée. Si je ne m'étais pas fait un devoir de tenir ponctuellement mon journal, ce soir, je n'écrirais rien. Nous avons fait une promenade délicieuse. Lucie, plus sereine, a même ri gaiement de la curiosité des vaches qui s'approchaient de la clôture d'un pré pour nous voir passer. Et cela, je crois, nous a fait à toutes deux oublier nos tristes pensées. Oublier tout. Vraiment, si ce n'est la crainte que nous inspiraient ces vaches. Crainte salutaire. À la baie de Robin Hood, dans une petite et vieille auberge d'où l'on voyait les rochers couverts d'algues, on nous servit un thé absolument extraordinaire. Sans doute, celles qui se disent les nouvelles femmes auraient été choqués de nous voir manger de si bon appétit. Les hommes, Dieu merci, sont plus tolérants. Puis nous avons pris le chemin du retour, mais en nous arrêtant souvent pour nous reposer. À l'hôtel, Lucie s'avoua fort fatiguée et nous proposions de monter nous coucher au plus tôt. Mais le jeune vicaire était venu en visite et Madame Westenra le pria de rester à souper. Lucie et moi eûmes fort affaire pour résister aux marchands de sable. De ma part, ce fut un rude combat. Il me semble que les évêques devraient se réunir afin de décider la création d'une nouvelle école de vicaires, à qui l'on enseignerait de n'accepter jamais une invitation à souper, si empressée qu'elle soit, et qui s'apercevrait toujours de la fatigue des demoiselles. Maintenant, Lucie dort paisiblement. Son visage est charmant, là, reposant sur l'oreiller. Ses joues sont colorées. Si M. Holmwood est tombé amoureux d'elle la première fois qu'il l'a simplement vue au salon, je me demande quels seraient ses sentiments s'il la voyait ce soir. Certaines de ces nouvelles femmes, qui font le métier d'écrire, mettront peut-être un jour à la mode l'idée qu'il faut permettre aux jeunes gens et aux jeunes filles, avant de se fiancer, de se voir endormies. Mais je suppose que, dorénavant, la nouvelle femme ne consentira plus à ce que son rôle se borne seulement à accepter une demande en mariage. C'est elle qui la fera, et elle s'en tirera parfaitement, c'est certain. Voilà une consolation. Je suis heureuse de voir que Lucie va mieux. Je crois vraiment qu'elle a passé le moment critique, qu'elle aura une nuit calme. Et je serais tout à fait heureuse si seulement je savais que Jonathan, que Dieu le bénisse et le protège. Du matin. Je reprends mon journal. Ne trouvant plus le sommeil, je préfère écrire. Comment pourrais-je dormir après cette aventure épouvantable? Je m'étais endormie aussitôt que j'avais eu refermé mon journal. Soudain, Je me réveillai en sursaut, prise de peur, ne sachant pourquoi. De plus, j'avais l'impression que j'étais seule dans la chambre. Celle-ci était si obscure que je ne distinguais même plus le lit de Lucie. Je m'en approchai à tâtons pour m'apercevoir qu'il était vide. Plus de Lucie. Je fis craquer une allumette. Je ne la vis nulle part dans la chambre. La porte était fermée, mais non plus à clé, alors que je savais très bien avoir donné un tour de clé avant de me coucher. Je ne voulais pas réveiller Madame Westenra, qui venait d'être assez souffrante, et je m'habillai plutôt à la hâte pour aller à la recherche de sa fille. Au moment de quitter la chambre, je pensais que les vêtements qu'elle avait mis pour s'en aller m'indiqueraient peut-être le but que, dans son rêve, elle s'était proposé. Si elle avait revêtu sa robe de chambre, c'est qu'elle était restée dans la maison. Une robe, c'est qu'elle était sortie. Mais sa robe de chambre, de même que toutes ses robes, était là. Dieu merci, pensais-je. Elle ne peut pas être loin si elle est en chemise de nuit. Je dégringolai l'escalier, entrai dans le salon. Elle n'y était pas. De plus en plus angoissée, je visitais toutes les autres pièces. Finalement, j'arrivai à la porte d'entrée que je trouvais ouverte. Comme je savais qu'on la fermait à clé tous les soirs, je craignis aussitôt que Lucie ne fût sortie, vêtue seulement de sa chemise de nuit. Mais je ne pouvais perdre mon temps en pensant à ce qui pourrait arriver. Une crainte mal définie dominait en moi, me faisait négliger tout ce qui n'était que détail. Prenant un grand châle, je sortis en courant. Une heure sonnait quand j'arrivai à Crescent. Pas une âme en vue. Je courus longtemps sans apercevoir la silhouette blanche. Arrivé au bord de la falaise ouest qui surplombe le point, j'examinai la falaise est et fus empli d'espoir ou d'effroi, je l'ignore moi-même, en voyant Lucie assise sur notre fameux banc. Il faisait un beau clair de lune, mais de gros nuages noirs, chassés par le vent, la voilaient de temps à autre et tour à tour couvraient le paysage d'obscurité complète et de clarté nocturne. Pendant quelques moments, je ne pus absolument rien distinguer car un nuage immense plongeait dans l'ombre St. Mary's Church et les environs. Bientôt cependant, la lune éclaira à nouveau les ruines de l'abbaye, puis, peu à peu, l'église et le cimetière. Quelle que fût mon attente, espoir ou crainte, elle ne devait pas être trompée, car là, sur notre banc, la lumière argentée éclairait une silhouette blanche comme neige, à demi couchée. Le nuage suivant vint trop rapidement pour m'en laisser voir davantage, mais j'eus l'impression que quelque chose de sombre se tenait derrière le banc, penché sur la blanche silhouette. Était-ce un homme ou une bête? Je n'aurais pu le dire. Je n'attendis pas que ce nuage disparût, mais je dégringolai jusqu'au port, longeai le marché aux poissons, jusqu'à ce que je fusse parvenu au pont, car c'est la seule route qui menait à la falaise est. La ville était déserte, ce dont je fus bien aise, car je ne désirais pas que l'on se rendît compte de l'état de la pauvre Lucie. Le temps, la distance aussi, me semblait interminable. Mes genoux tremblaient et j'étais de plus en plus essoufflé tandis que je montais les marches sans fin qui conduisent à l'abbaye. J'avais hâte d'arriver là-haut. J'y mettais toutes mes forces et cependant, il me semblait que mes pieds étaient chargés de plomb. Quand enfin j'eus atteint mon but, j'aperçus aussitôt le banc et la silhouette blanche qui s'y trouvait. J'étais assez près maintenant pour les distinguer même dans l'obscurité. Et je n'en doutais plus à présent. Il y avait comme une créature longue et noire, penchée vers mon ami. Je criai aussitôt « Lucie, Lucie !» et je vis se relever une tête en même temps que j'apercevais un visage blême dont les yeux flamboyaient. Lucie ne me répondit pas. Je courus alors jusqu'à l'entrée du cimetière. L'église, maintenant, me cachait le banc, de sorte que l'espace de quelques instants, je ne vis plus Lucie. Je contournai l'église. Le clair de lune, libre de nuages, me permit enfin de voir nettement Lucie à demi couchée, la tête appuyée contre le dossier du banc. Elle était absolument seule. Il n'y avait, auprès du banc, pas la moindre trace d'un être vivant. Quand je me penchai sur elle, je m'aperçus qu'elle était encore profondément endormie. Les lèvres entrouvertes, elle respirait, non pas paisiblement ainsi qu'elle respirait habituellement, mais comme si elle se fût efforcée, à chaque inspiration et avec peine, de faire pénétrer le plus d'air possible dans ses poumons. Soudain, toujours dans son sommeil, elle releva le col de sa chemise de nuit, sans doute pour mieux se couvrir la gorge. En même temps, je m'en rendis compte, Elle frissonna de la tête aux pieds. Elle avait froid. J'entourai ses épaules du châle de laine, et comme je craignais de la réveiller trop brusquement, j'attachai le châle autour de sa gorge, au moyen d'une grosse épingle à nourrice, afin d'avoir moi-même les mains libres pour pouvoir l'aider. Mais, angoissée comme je l'étais, j'eus sans doute un mouvement maladroit. Peut-être la piquai-je légèrement. Car bientôt, sa respiration devenant plus calme, elle porta à nouveau la main à la gorge et se mit à gémir. Une fois qu'elle fut chaudement enveloppée dans le châle, je lui mis mes souliers, puis j'essayai très doucement de l'éveiller. D'abord, elle ne sembla pas réagir le moins du monde. Peu à peu, cependant, son sommeil se fit plus léger. Elle gémit encore, puis poussa quelques soupirs. Comme il me semblait qu'il était grand temps de la ramener à l'hôtel, je la secouai un peu plus brusquement. Enfin, elle ouvrit les yeux, s'éveilla. Elle ne parut nullement surprise de me voir. Naturellement, au premier moment, elle ne se rendit pas compte du lieu où elle se trouvait. À son réveil, Lucie est toujours très jolie, et même alors, par cette nuit froide où elle frissonnait et devait être épouvantée de se réveiller, vêtue seulement d'une chemise de nuit et d'un châle dans un cimetière, elle ne perdait rien de son charme gracieux. Elle trembla un peu, se serra contre moi, et quand je lui dis « Reviens immédiatement avec moi », elle se leva sans un mot, obéissante comme une enfant. Nous nous mîmes en route. Les cailloux du chemin me blessaient les pieds, ce qu'elle remarqua. Elle s'arrêta, insista pour que je reprenne mes chaussures. Bien entendu, je refusai. Seulement, une fois que nous fûmes sortis du cimetière, je me trempai les pieds dans la boue afin que si jamais nous rencontrions quelqu'un, on ne pût remarquer que j'étais pieds nus. Mais la chance nous sourit. Nous rentrâmes sans croiser personne. À un moment donné, il est vrai, nous aperçûmes un homme qui semblait pris de boisson. Mais nous nous mîmes à l'abri, à l'intérieur d'un porche, jusqu'à ce qu'il eût disparu. Inutile d'ajouter que j'étais à nouveau rempli d'inquiétude, à la pensée que Lucie risquait non seulement de prendre froid, mais de voir sa réputation gravement atteinte si cette histoire se répandait. Dès que nous fûmes rentrés, et après nous être lavé les pieds, je la fourrai dans son lit. Avant de se rendormir, elle me demanda, me supplia de ne rien raconter à personne, pas même à sa mère. Tout d'abord, j'hésitais. Je ne voulais pas lui faire cette promesse. Mais je m'y décidai finalement en pensant à l'état de santé de sa mère, au choc qu'elle éprouverait si elle apprenait la chose, laquelle, assurément, ne parviendrait que défigurée à ses oreilles. J'espère que j'ai eu raison. J'ai fermé la porte à clé, et je garde la clé liée à mon poignet. Sans doute ne serai-je plus dérangée. Lucie dort profondément. L'aube, déjà, se lève sur la mer. Même jour, midi. Tout va bien. Lucie a dormi jusqu'à ce que je l'éveille et ne semblait même pas s'être retournée une seule fois dans son lit. Apparemment, l'aventure de la nuit dernière ne lui a pas fait de mal. Au contraire, j'ai l'impression qu'elle est mieux ce matin, mieux que depuis des semaines. Seulement, je suis navrée d'avoir été maladroite au point de la blesser en fermant l'épingle à nourrice. Je m'aperçois que cela aurait pu être grave, car la peau de la gorge a été percée à deux endroits différents. Il y a une tache de sang sur le ruban de sa chemise de nuit. Quand je lui ai dit à quel point cela m'attristait, elle m'a répondu en riant et en me donnant une petite tape sur la joue qu'elle n'en souffrait pas le moins du monde. Heureusement, je ne pense pas qu'il y ait une cicatrice. 11 août, au soir. Nous avons passé une très bonne journée. Beau temps, soleil, légère brise. Nous avons déjeuné à Mulgrave Woods, où Madame Westenra s'est rendue par la route, tandis que Lucie et moi prenions le chemin au flanc des falaises. Malgré tout, j'avais le cœur gros, pensant à mon bonheur si Jonathan eût été là. Mais il me faudra sans doute encore beaucoup de patience. Le soir, promenade dans les jardins du casino, où nous avons entendu de la bonne musique, puis nous sommes rentrés nous coucher tôt. Lucie, beaucoup plus calme, s'est endormie tout de suite. Je vais fermer la porte à clé et prendre la clé comme je l'ai fait la nuit dernière, bien que je ne croie pas qu'il ne se passe rien de fâcheux. août. Je m'étais trompée. À deux reprises cette nuit, j'ai été réveillée par Lucie, qui essayait de sortir de la chambre. Même endormie, on l'a devinée quelque peu irritée de trouver la porte fermée. Et c'est avec des gestes de protestation qu'elle est venue se recoucher. Enfin, quand je me suis réveillée au petit matin, les oiseaux chantaient et je fus bien aise de voir que Lucie, également éveillée, avait encore meilleure mine que la veille. Elle avait recouvré sa gaieté naturelle et elle vint près de moi, dans mon lit, pour me parler longuement d'Arthur. De mon côté, elle essaya de me rassurer, et j'avoue qu'elle y réussit dans une certaine mesure, car si la sympathie de nos amis ne change évidemment rien aux faits tels qu'ils sont, elle nous les rend tout de même plus supportables. 13 août. Encore une journée paisible, et le soir, je me suis à nouveau couchée, la clé attachée à mon poignet. Lorsque, dans la nuit, je me suis réveillée, Lucie, endormie, était assise dans son lit et du doigt montrait la fenêtre. Je me précipitai vers la fenêtre et, levant le store, je penchai la tête pour voir ce qui se passait au dehors. Il faisait un beau clair de lune et la mer et le ciel se confondaient dans cette douce lumière argentée et dans le silence mystérieux de la nuit. Devant moi, une grande chauve-souris passait et repassait en décrivant de larges cercles. Une ou deux fois, elle me frôla presque. Mais je suppose qu'elle en fut effrayée, car elle s'envola vers le port, puis vers l'abbaye. Lorsque, quittant la fenêtre, je regagnai le milieu de la chambre, Lucie s'était étendue et dormait paisiblement. Elle n'a plus bougé jusqu'au matin. 14 août. Nous avons passé presque toute la journée sur la falaise, lisant et écrivant. Lucie semble maintenant aimer cet endroit autant que je l'aime moi-même, et c'est toujours avec regret qu'elle le quitte quand il faut que nous rentrions pour le lunch, le thé ou le dîner. Cet après-midi, elle a fait une remarque bien drôle. Nous revenions à l'heure du dîner, et arrivés au-dessus de l'escalier, sur la falaise ouest, nous nous étions arrêtés pour contempler le paysage, comme nous le faisons souvent. Le soleil couchant, qui descendait derrière le promontoire, teintait d'une belle lumière rouge la falaise d'en face et la vieille abbaye. Nous restâmes sans rien dire un moment. Puis Lucie murmura comme si elle se parlait à elle-même. Encore ses yeux rouges, les mêmes, exactement les mêmes. Fort étonnée, ne comprenant pas à quoi de telles paroles pouvaient se rapporter, je me tendis légèrement vers Lucie, afin de la voir sans toutefois avoir l'air de la regarder. Je m'aperçus alors qu'elle était dans un état de demi-sommeil et que l'expression de son visage était des plus bizarres. Je ne dis rien, mais suivis son regard. Elle le tenait fixé, me sembla-t-il, sur notre banc où était assise une silhouette sombre. J'en demeurai interdite moi-même car, l'espace d'un instant, j'eus l'impression que cette étrange créature avait de grands yeux flamboyants, mais cela ne dura réellement qu'une seconde. Le soleil illuminait les vitraux de l'église, derrière notre banc que je distinguais encore dans le creux. J'attirai l'attention de Lucie sur ses jeux de lumière et elle se ressaisit complètement, mais tout en paraissant encore très triste. Peut-être se souvenait-elle de la nuit terrible qu'elle avait passée là-haut. Nous n'en avions jamais reparlé. Je n'y fis à nouveau aucune allusion et nous nous remîmes en route. Lucie, prise d'un grand mal de tête, monta se coucher aussitôt après le dîner. Lorsqu'elle fut endormie, je sortis à nouveau, désirant me promener seule sur les falaises. Je me sentais triste, moi aussi, je l'avoue, car je pensais sans cesse à Jonathan. Quand je rentrais, la lune éclairait la nuit, au point que même près de l'hôtel qui se trouvait dans l'ombre, on distinguait le moindre objet. Je levai les yeux vers notre fenêtre et je vis Lucie qui s'y penchait. Je me dis que peut-être elle me cherchait et j'agitai mon mouchoir. Elle ne remarqua rien. En tout cas, elle ne fit pas le moindre geste. À ce moment même, la lune éclaira l'angle de la maison et par conséquent notre fenêtre. Je m'aperçus que Lucie, les yeux fermés, avait la tête appuyée sur le rebord de la fenêtre. Elle dormait et à côté d'elle, sur le marbre, j'eus l'impression qu'était posé un grand oiseau. Craignant qu'elle ne prît froid, je montai l'escalier aussi vite que je le pus mais quand j'entrais dans la chambre, elle revenait vers son lit, toujours profondément endormie et respirant avec difficulté. D'une main, elle se couvrait la gorge, comme pour se protéger contre le froid. Sans la réveiller, je ramenais des couvertures sur elle. Maintenant, la porte est fermée à clé, et j'ai eu soin de bien fermer la fenêtre. Elle est très jolie, reposant ainsi, mais elle est pâle en ce moment, et ses traits sont tirés. J'ai peur qu'une chose que j'ignore ne l'inquiète, si je pouvais savoir ce que c'est. août. Nous nous sommes levés plus tard que d'habitude. Lucie, fatiguée, s'était rendormie après que l'on nous eût appelés. Heureusement surprise, au petit déjeuner, le père d'Arthur va mieux et il voudrait que le mariage ait lieu le plus tôt possible. Lucie rayonne de joie. Quant à sa mère, elle est heureuse et triste tout ensemble. Elle m'a expliqué son sentiment un peu plus tard dans la journée. Elle a beaucoup de chagrin à la pensée de devoir se séparer de Lucie, mais elle se réjouit que sa fille ait bientôt un mari qui veillera sur elle. Pauvre Madame Westenra. Elle sait, m'a-t-elle confié, qu'il ne lui reste plus longtemps à vivre. Elle n'en a rien dit à sa fille et m'a fait promettre de garder le secret. La moindre émotion risquerait, pour Madame Westenra, d'être fatale. Ah, nous avons bien fait de ne pas lui révéler l'aventure de Lucie l'autre nuit. 17 août. Je n'ai pas écrit une seule ligne depuis 2 jours. Je n'en avais pas le courage. Oui, tout semble concourir à me décourager. Je n'ai aucune nouvelle de Jonathan, et Lucie me paraît de plus en plus faible. Je n'y comprends rien. Elle mange bien, passe de bonnes nuits, et ainsi que de longues journées au grand air. Cependant, elle devient de plus en plus pâle, et la nuit, je l'entends qui respire avec difficulté. Je ne m'endors plus jamais sans avoir attaché la clé de notre porte à mon poignet. Lucie se relève souvent, marche dans la chambre ou s'assied sur l'appui, la fenêtre ouverte. La nuit dernière, je l'ai trouvée qui se penchait au dehors, et c'est en vain que j'ai tenté de l'éveiller. Elle était évanouie. Quand enfin j'ai pu la ranimer, elle était d'une faiblesse extrême et pleurait tout bas entre les efforts très longs et très pénibles qu'elle faisait pour respirer. Lorsque je lui ai demandé pourquoi elle était allée à la fenêtre, elle a hoché la tête, puis s'est détournée. J'espère que ces malaises ne proviennent pas de cette piqûre d'épingle. Je viens, pendant qu'elle dort, d'examiner sa gorge. Les 2 petites blessures ne sont pas encore guéries. Les plaies sont encore ouvertes, et même plus larges, me semble-t-il. Les bords en sont d'un rose presque blanc. Si cela ne va pas mieux d'ici 1 jour ou 2, je demanderai que l'on appelle un médecin.